Bonjour à toutes et à tous. Lutter contre la pédophilie et protéger les personnes vulnérables dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Voilà le thème de cette émission. Ce sujet crée forcément une émotion particulière, faite parfois de colère, de peur, de tabou. Pour nous parler de toutes les questions liées à cette lutte, nous recevons Mgr Nicolas Brouvet, l'évêque de Tarbes-et-Lourdes. Bonjour Mgr.
Bonjour Mathias.
Autour de cette table, dans ce studio également, frère François Boustillot. Bonjour frère.
Bonjour.
Vous êtes délégué épiscopal à la protection des mineurs et des protections des personnes vulnérables pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Il y a sœur Monica.
Bonjour
sœur. Sœur Monica, vous êtes déléguée pour la pastorale des jeunes où vous êtes responsable du service diocésain des jeunes. Également, Hélène Pérez. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes médecin. Vous êtes conseillère conjugale et familiale, responsable de l'équipe diocésaine de l'éducation affective. Alors le sujet, je le disais en commençant, est lourd, difficile, plein d'émotions, forcément. Mgr Nicolas Brouvet, vous avez déclaré lors d'une homélie en la mémoire de Notre-Dame des Douleurs, c'était le 15 septembre 2018, « C'est l'Église entière qui est blessée par ses actes. » C'est la crédibilité de l'Église entière qui est mise en cause. C'est ensemble que nous voulons manifester aux victimes l'horreur de ces actes. Et c'est ensemble que nous voulons prier pour elles. C'est ensemble que nous voulons leur manifester notre soutien. Ensemble que nous voulons dire non à l'impunité de ceux qui abusent et à la loi du silence qui parfois s'impose. Et vous terminez ce passage, c'est ensemble que nous devons prendre des mesures concrètes. Nous y sommes, puisque cette émission est consacrée aux mesures concrètes. Avant de parler de ce qui est mis en œuvre en termes de formation, en termes de protection, et puis aussi du rôle du frère Boustillot, vos convictions sur le sujet, quelles sont-elles, Mgr Brouvet ?
La première conviction, c'est que, évidemment, ces abus sont un vrai scandale. Un scandale non seulement parce que ce sont des enfants qui sont touchés, mais un scandale parce que ce sont des prêtres qui les commettent, pas que des prêtres, hein. Il y a aussi des laïcs, mais en tout cas, ce qui nous concerne, on est en train de parler de l'abus sexuel commis par des clercs, et donc il faut y mettre fin. Ça ne peut pas durer, et il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à ces scandales. La deuxième conviction, c'est qu'évidemment, il faut prendre au sérieux les victimes de ces actes, les écouter, et puis faire un chemin d'accompagnement avec elles pour restaurer ce qui peut être restauré, et dans leur vie humanité, et puis aussi dans leur rapport à Dieu avec l'Église. Évidemment aussi, il faut dénoncer ces actes, les signaler, et puis juger et punir les coupables.
Et donc c'est tout ce qui est mis en œuvre, hein, nous allons pouvoir voir concrètement ce que vous avez décidé, alors ces décisions ne datent pas d'aujourd'hui. Avant de vous redonner la parole, Mgr Brouvet, j'aimerais peut-être que nous fassions un tour de table très rapidement avec le frère François Boustillot d'abord, qui a été nommé le 21 octobre dernier délégué épiscopal à la protection des mineurs. Cela se passait lors du pèlerinage diocésain, à l'issue de la messe du pèlerinage diocésain. Cette mission, vous la recevez comment et quel est son périmètre, son rôle ?
Alors je reçois cette mission comme une responsabilité, parce que comme tout le monde, j'étais choqué, scandalisé par tout ce qu'on a entendu. Une église blessée, vous venez de le dire, aux États-Unis, au Chili, en Irlande, en France, partout. Et face au scandale de la pédophilie, il faut réagir. On ne peut pas constater, parce que souvent dans l'Église, on est bon en constatation et un peu moins bon en proposition. Et moi, je trouvais que c'était très audacieux de la part de Monseigneur de proposer très vite un délégué épiscopal pour agir et réagir. Pas simplement pour constater, mais pour dire aux parents, pour dire aux jeunes, pour dire aux fidèles et à ceux qui sont à la périphérie de l'Église, chez nous, dans la maison Église, il faut que les gens soient en sécurité.
Sœur Monica, vous organisez très régulièrement des propositions, des camps, des veillées pour les jeunes. Dites-nous comment vous-même vous vivez cette lutte contre la pédophilie.
Ce qui est très important pendant ces camps de jeunes, ces soirées, c'est la collaboration donc, entre des laïcs et des religieux, des religieuses. Ça permet de, voilà, d'avoir des jeunes toujours entourés par divers visages, qu'ils soient jamais seuls aussi forcément avec un membre du clergé qui n'est pas un unique référent, qui puisse avoir différents modèles autour d'eux pour se construire. Donc notre but, c'est toujours de faire grandir les enfants et de leur donner un maximum de sécurité.
Nous aurons l'occasion, dans la deuxième partie de cette émission, de parler des formations qui sont mises en œuvre dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Hélène Pérez, vous aussi, première prise de parole sur ce sujet. Comment vous-même, vous vivez cette question, sans doute douloureusement, forcément, la question de la remise en cause de toute l'Église à travers ces scandales de pédophilie.
Je souscris à ce qui a été dit, c'est-à-dire à la fois c'est un scandale pour les personnes qui sont face à ces informations, c'est certainement une remise en question au niveau de toute l'Église, et puis peut-être aussi une remise en question pour chacun, je dirais, parce que voilà, ça se passe dans l'Église, ça se passe dans les familles, on est tous quelque part concernés. Voilà, moi qui m'occupe plus d'accompagnement de jeunes, comment aussi aider les jeunes ? Tout ce qui touche à l'éducation affective, comment avoir un juste rapport à son corps, à son cœur, et puis dans la relation à l'autre, comment bien se situer, quel que soit son âge. Hein. Donc c'est tout un champ à vivre, à accompagner et à creuser. Enfin, moi, je vois ça comme une remise en question pour chacun, finalement. Enfin, moi, ça me remet en question.
Monseigneur Brouvet, quelle a été votre première initiative dans le diocèse ? Vous nous avez fait part de vos convictions il y a quelques minutes. Votre première initiative dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, lorsque vous avez pris la mesure de cette question, de la gravité de ce sujet de la pédophilie ?
Bon, la première chose, comme tous les évêques d'ailleurs, ça a été de faire face à des cas qui se sont posés, des cas d'abus sexuels qu'il a fallu « traiter », entre guillemets, c'est-à-dire... recevoir des victimes, recevoir les personnes coupables, et puis évidemment collaborer avec le procureur de la République, donc la justice civile, puisque c'est elle qui doit enquêter, non pas l'évêque en premier. Et donc il a fallu déjà commencer comme ça, et ce qui nous a conduit très vite à créer une cellule d'écoute en septembre 2016. Cellule d'écoute, ça veut dire c'est pas le seul évêque qui est face à cette question, mais un petit groupe de trois personnes, deux médecins et puis un magistrat émérite, un ancien magistrat, qui ont eu, avec un numéro de téléphone et puis une adresse mail, qui ont pu se tenir à la disposition de ceux qui voulaient parler. Je crois que c'est déjà avec eux qu'on a commencé à écouter, à prendre conscience du problème, à montrer aussi aux victimes qu'on prenait au sérieux le traumatisme qui leur avait été infligé.
Nous n'allons pas donner de chiffres particulièrement sur le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, ou enfin en tout cas nous n'allons pas entrer dans les détails des cas, mais tout de même, si on laisse planer trop de doutes, on laisse croire qu'il y a eu une espèce de déferlante sur l'Église et sur les diocèses ces dernières années concernant les paroles de victimes, des cas révélés. Vous-même, est-ce que vous l'avez vécu, cette déferlante ? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ?
Bon, écoutez, par exemple, pour la cellule d'écoute, en 2 ans et 3 mois, il y a eu 5 cas. 5 personnes qui ont pris contact, dont 2 hors diocèse. Ça veut dire qu'une cellule d'écoute, on peut la contacter quand on est dans le diocèse, et puis il y a des gens qui la contactent simplement parce que, je ne sais pas, ils étaient de passage à Lourdes, parce qu'ils ont téléphoné à ce numéro sur lequel ils étaient tombés, et puis ils ont eu confiance. Donc, ce n'est pas une déferlante, 5 personnes. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on téléphone à la cellule d'écoute que c'est forcément un cas avéré. De mon côté, j'ai entendu des personnes, des cas, il y a eu des abus, en diocèse et hors diocèse aussi. Là aussi, on s'imagine que dès qu'on va voir l'évêque, c'est un cas qui s'est passé dans le diocèse. En fait, ce n'est pas toujours exactement comme ça que ça se passe. Donc moi, j'ai eu quelques cas aussi que j'ai eu à traiter. Voilà, donc il a fallu là vraiment écouter, écrire, réfléchir, analyser, partager. C'est quand même, comme ce sont des choses qui sont lourdes, eh bien ça ne se règle pas en quelques instants.
Vous venez de dire j'ai eu quelques cas à traiter. Alors concrètement, quelles sont, vous, les procédures que vous mettez en place dès lors que vous recevez ou ce type de plainte ou ce type de témoignage? Comment procédez-vous?
Bah, écoutez, en fait, c'est quelqu'un qui va téléphoner ou quelqu'un qui va écrire quelqu'un qui, au cours d'une conversation dans un groupe de chrétiens, dans une rencontre, va faire une allusion. Et donc, quelqu'un d'autre va me prévenir en disant « Cette dame a dit ça et il faudrait peut-être la recevoir ». Voilà, ça se passe un peu de manière différente d'une fois sur l'autre. Ensuite, moi, je peux recevoir la personne, voir si c'est sérieux, parce qu'il y a aussi des dénonciations qui sont juste calomnieuses. C'est-à-dire des gens qui disent « Ah, bah... il s'est passé quelque chose, mais dès qu'on demande juste une date ou un fait, ben en fait, il n'y a rien. Donc, il faut déjà voir, et on s'en rend compte quand même assez vite, si la dénonciation est crédible ou pas. Et ensuite, si on voit que c'est crédible, alors là, c'est du ressort de la justice civile. Et donc, il faut voir avec la personne qui fait un signalement au procureur. Est-ce que c'est la personne elle-même? Ce n'est pas forcément la personne abusée, d'ailleurs, qui vient voir l'évêque. Ça peut être des parents, ça peut être quelqu'un de proche. Bon, et donc c'est avec la victime qu'il faut essayer de voir qui va aller chez le procureur. Et figurez-vous que moi j'ai rencontré plusieurs victimes qui n'avaient pas envie d'aller chez le procureur de la République, c'est-à-dire qui n'avaient pas envie de faire un signalement pour que ça soit traité par la justice, tout simplement parce que beaucoup de gens... d'abord, ce sont des cas souvent qui ont eu lieu il y a longtemps. Il y a une chose qu'on a du mal à réaliser, c'est que ces abus font tellement de mal à l'intérieur de la personne, le traumatisme est tellement profond que parfois il est oublié. Il est oublié et il ressort à l'occasion d'un autre événement. Ça peut être 10, 15, 20 ans, 30 ans après. Bon, et 20 ans, 30 ans après, les personnes souvent ont fait leur vie, elles ont des enfants, parfois des petits-enfants, elles n'ont pas envie de remuer le passé, elles n'ont pas non plus envie que le nom sorte dans les journaux et que de revivre des choses qui ont été excessivement difficiles. Moi, je crois qu'il faut que les personnes parlent. Je crois que on peut se restaurer après ces affaires-là, déjà en prenant la parole. Et puis en reconnaissant que la justice reconnaisse que la personne est victime. Or, c'est pas si évident que cela pour les victimes elles-mêmes. Et donc, parfois, la première chose, c'est d'essayer de convaincre les victimes qu'il est important de parler, qu'il est important de dénoncer, qu'il est important de faire la vérité, et que la victime ne va pas revivre un autre traumatisme parce qu'elle sera protégée par la discrétion du magistrat et de l'Église. Il faut traiter ces affaires. On n'a pas forcément à les rendre publiques parce que ce sont des personnes qui sont derrière. Ce sont des victimes qui ont déjà vécu un traumatisme et qui n'ont pas besoin d'en revivre un autre. Et voilà pourquoi, vous voyez, la question du signalement n'est pas si évident que ça. En tout cas, lorsque la personne est d'accord, soit elle fait un signalement elle-même, soit je peux le faire. Tout simplement parce que voilà, je suis l'évêque diocésain et que j'ai appris ces actes, comme n'importe qui d'ailleurs pourrait faire un signalement. N'importe qui entend parler d'un fait peut faire un signalement à la justice. Ça peut être dans une famille, ça peut être dans un quartier, dans un réseau de relations. C'est simplement qu'on a entendu une information qui ne devait pas rester cachée.
Hélène Pérez, vous qui êtes conseillère conjugale et familiale, qui êtes en contact... aussi avec les jeunes, les familles, les parents. Que sauriez-vous nous dire sur les dégâts causés par des actes de pédophilie auprès de notre jeunesse, des jeunes, ou d'un jeune?
Alors c'est un véritable traumatisme, je dirais un cataclysme intérieur. Et effectivement, moi je lisais des chiffres, il faut en moyenne 16 ans avant de pouvoir en parler. Et j'ai rencontré dernièrement deux personnes... deux femmes qui avaient eu des abus et qui n'arrivaient pas, une avait 49 ans, l'autre 39 ans, n'arrivaient pas à se marier, n'arrivaient pas à se sentir à l'aise dans leur féminité, n'arrivaient pas, enfin il y a un retentissement intérieur très profond. Mais ces personnes faisaient un chemin de reconstruction, parce que c'est possible de faire un chemin de reconstruction. Et en nommant les choses, en... en voilà, en découvrant qu'il y a des ouvertures avec le pardon, mais il ne faut surtout pas trop vite, pas trop. Il y a quelque chose qui se passe très doucement. Réaliser tout ce que ça peut détruire et abîmer, et en même temps être acteur pour aider les personnes à se reconstruire.
Frère François Bustillo, vous qui avez été nommé le 21 octobre 2018 comme délégué épiscopal à la protection des personnes vulnérables, des mineurs, quel regard vous portez sur ce qui a été mis en œuvre dans le diocèse de Tarbes-Lourdes? Votre regard étant neuf, si je puis me permettre, puisque vous venez d'un autre diocèse où vous avez exercé des responsabilités, où vous arrivez.
Moi, je constatais quelque chose de positif, c'est qu'il y a déjà, Mgr Brouvet a mis en mouvement, depuis quelques années, une éducation, une formation pour protéger les enfants et les personnes vulnérables. En même temps, j'assume une responsabilité. Mon devoir, c'est de voir tout. Donc, de voir ce qui se fait et ce qui n'est pas fait encore. Et donc, il est important que dans chaque domaine où il y a des enfants, où il y a des jeunes, où il y a des personnes vulnérables, nous soyons présents. Nous soyons présents et nous soyons aussi acteurs de protection. Alors, pour le moment, j'ai la joie de découvrir la réalité diocésaine, de voir tout ce qui se fait dans le domaine du catéchisme, de l'aumônerie, des scouts, partout dans le diocèse.
Vous regardez partout?
Je regarde partout. Dès que Monseigneur m'a nommé, je suis parti et j'ai commencé à découvrir et à parler avec tous les responsables de l'église locale. Alors j'ai eu un regard ad intra, si vous voulez, et donc de voir un peu, de contacter tous les responsables. Mais il m'a semblé important aussi d'avoir un regard aussi ad extra, avec les autorités civiles. Donc, j'ai rencontré la préfète, le procureur de la République, le commissaire de police, le commandant de la gendarmerie nationale, la députée. Je pense qu'il est important de voir, de parler et de discuter avec toutes les autorités. Et que nous trouvions un terrain de confiance dans lequel on peut parler, discuter, s'il y a des problèmes. Et que nous puissions aussi, en tant qu'Église catholique, dire « Ok, comme tout le monde, nous avons écouté tous les problèmes qu'il y a dans l'Église, et ailleurs aussi, nous, Église catholique, nous, dans le diocèse de Tarbes-Lourdes, voilà notre action. Nous sommes responsables et nous voulons passer d'une constatation, comme je disais tout à l'heure, à une proposition concrète. Il y aura des chartes, il y aura une cellule qui va proposer des domaines et des actes concrets pour que nos enfants et nos jeunes soient protégés. »
Jusque-là, je reprends ce mot, nous avons beaucoup parlé de protection. Mgr Brouvet nous a dit comment il agit lorsqu'un cas lui est révélé et qu'il s'avère plausible. Il nous faudra parler dans la suite de cette émission de sensibilisation, de formation, de prévention. C'est un peu aussi ce que recouvre votre fonction, frère Bustillo. Nous en parlons juste après la pause. À tout de suite.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2. Écoutez Présence Lourde sur internet, www.radioprésence.com, page Lourdes.
Aujourd'hui, nous vous proposons cette émission spéciale sur la lutte contre la pédophilie, la protection des personnes vulnérables telle qu'elle est déployée dans le diocèse de Tarbes-Lourdes. Avec autour de cette table Mgr Nicolas Brouvel, l'évêque du lieu, l'évêque de Tarbes-Lourdes, Hélène Pérez, qui est conseillère conjugale et familiale, qui est médecin, qui est responsable de l'équipe diocésaine de l'éducation affective. Sœur Monica, qui est responsable du service diocésain des jeunes, et puis le délégué épiscopal à la protection des mineurs et aux personnes vulnérables dans le diocèse, le frère François Bustillo. Alors tous les quatre, depuis le début de cette émission, vous nous dites combien, bien sûr, toute l'Église se sent concernée et veut se mettre à l'œuvre sur ces questions et se met à l'œuvre même. Et nous regardons de plus près ce qu'il en est dans le diocèse de Tarbes-Lourdes. Mgr Brouvet, est-ce que vous diriez que la rencontre que vous avez vécue comme évêque avec les victimes, alors avec les évêques de France et aussi à titre personnel, ça vous a bouleversé? Et il y a sans doute à parler là un peu de l'émotion. Vous, comme humain, comme homme, vous avez vécu dans ces circonstances. Ça doit être dur, difficile à entendre.
Oui, il y a de l'émotion. Et moi, mon rôle, c'est justement de sortir de l'émotion et puis d'entrer aussi dans un travail de la raison. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons, pas seulement pour traiter ou pour gérer, disons, les cas d'abus, mais pour protéger dans l'avenir les mineurs et les personnes vulnérables, en posant les choses, en se rendant compte de la réalité des faits aussi, qui ne correspond pas toujours d'ailleurs à ce qu'on en dit dans la presse ou dans les médias, parce que forcément c'est toujours un peu simplifié. Or, la vie, elle est plus complexe que ce qu'on peut en dire en quelques phrases. Nommer un délégué pour la protection des mineurs et les personnes vulnérables, c'était justement poser les choses. Ne plus être simplement dans la réaction au cas qui se présentait, et se dire, bon voilà, maintenant, comment dans les années à venir, on va prendre du recul, on va prendre de la hauteur, et puis avec tous ceux qui sont acteurs auprès des jeunes, comment est-ce que nous allons faire ?
Cette nomination d'un délégué épiscopal pour protéger les mineurs et les personnes vulnérables, vous l'avez reçue comment, vous, sœur Monica ? Vous qui organisez assez régulièrement, voire très régulièrement, des rencontres pour les jeunes.
Moi, je me suis d'abord dit, on va travailler ensemble. On a déjà commencé, en fait, l'année dernière, à réfléchir sur des formations pour la protection des mineurs et des enfants. Et voilà, avec Hélène Pérez. Et je me suis dit, par la suite, c'est une évidence pour moi qu'on marche ensemble et qu'on travaille ensemble pour cette protection des mineurs et des enfants et des jeunes.
Tout à l'heure, le frère Bustillo a dit, il faut que l'église soit un lieu sûr. Une fois qu'on l'a dit, comment on fait très concrètement pour que ce soit sûr et que les parents, les familles le sachent lorsque vous mettez en œuvre une proposition pour les familles, les parents, les jeunes. Monseigneur Brouvet, puis sœur Monica pourra aussi.
Oui, réagir. Moi, ce que j'ai demandé au frère François, c'est de faire deux choses. Si vous voulez, fondamentalement. D'abord, la formation. C'est-à-dire, comme le frère l'a dit tout à l'heure, il y a des tas de gens qui s'occupent des jeunes, que ce soit dans les aumôneries, au catéchisme, chez les scouts, dans les mouvements comme la JOC, le MEJ, etc. Dans l'enseignement catholique aussi. On se rappelle qu'on a 6000 élèves dans l'enseignement catholique ici, dans le diocèse, dans le département. Et donc là, de la formation, pourquoi ? D'abord pour mettre des mots sur ces réalités. Il est important d'en parler, parce que précisément, on parle beaucoup du silence de l'Église là-dessus, mais en fait, c'est un silence qui est général, y compris dans les familles. On ne sait pas parler de ces questions. Et donc, mettre des mots, c'est déjà on peut en parler, déjà on peut essayer de comprendre ce qui se passe. La formation, c'est aussi dire la loi. Dire la loi, ça veut dire il y a des interdits. Et ces interdits, il faut les dire, parce que si on ne les dit pas, il y a beaucoup d'éducateurs, si vous voulez, qui vont pas dans leur conscience comprendre combien toucher le corps d'un jeune, ça a un retentissement chez lui. Il faut aussi parler de la juste distance éducative, et en parler pas simplement avec les animateurs, mais aussi avec les jeunes. Parce que la distance, elle est du côté des animateurs, mais elle doit aussi être du côté des jeunes. Il faut aussi éduquer les jeunes à comprendre que un éducateur, un animateur, c'est pas comme un père, c'est pas comme une mère, et que il y a des choses qu'on fait, puis il y a des choses qu'on fait pas. Et puis parler, réfléchir sur le rapport au corps, c'est pour ça que Hélène Pérez a accepté aussi de travailler avec nous. Voilà. Et donc ça fait partie, je crois, de la formation des éducateurs des jeunes pour que cette chape de silence, explose et que on puisse parler de ces sujets. Et puis il y a un deuxième volet de la mission du Père Bustillo, c'est de rédiger des chartes de comportement, des chartes d'engagement, d'abord pour vérifier l'idonéité des personnes qui s'occupent des jeunes, et puis ensuite pour que ces personnes s'engagent. Alors il faut dire aussi une chose, c'est qu'on a une particularité dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, c'est le sanctuaire de Lourdes. C'est-à-dire que moi, je suis responsable aussi du sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il y a beaucoup de jeunes et de personnes vulnérables. Il y en a aux piscines, il y en a à l'accueil Notre-Dame, qui est l'accueil là où on reçoit les malades. Il y a le camp des jeunes. Et puis il y a le confessionnal aussi. Donc dans tous ces lieux-là, toutes les personnes qui reçoivent, qui ont des responsabilités, comment est-ce qu'elles s'engagent justement à respecter le corps? Et puis la personne, plus largement la personne de celui ou celle qu'il a en face de lui.
Samedi 12 janvier et samedi 30 mars, vous mettez en œuvre, Hélène Pérez et Sœur Monica, justement des formations. Très concrètement, ce sont deux samedis qui sont très riches, même très structurants pour ceux qui participeront. On aura l'occasion de donner les modalités pratiques. Dites-nous, par le détail, qu'est-ce que vous avez voulu proposer dans ces formations du samedi 12 janvier et du samedi 30 mars ? L'une et l'autre, vous allez vous compléter, puisque vous co-organisez.
Oui, hein, voilà, tout à fait. Ben, tout d'abord, il faut dire que ça, on a organisé ça sur la demande de notre évêque, Monseigneur Brouvet. Et donc, nous abordons donc, cette thématique du corps, donc pas seulement sous l'aspect des problèmes du corps, mais aussi sous l'aspect un peu positif de comment aimer son corps, comment s'estimer soi-même dans son corps. Et il y aura particulièrement donc, le samedi 30 mars, deux interventions par rapport à la juste au juste positionnement relationnel avec les enfants et les jeunes par Lisa Destrel, qui est responsable de la focale et aussi directrice d'accueil collectif de mineurs. Donc c'est très important de mettre en place cette culture de la juste distance par rapport, de la part des animateurs, quelque chose qui doit être intériorisé, je dirais. Et donc l'après-midi, nous faisons venir Véronique Garnier, qu'Hélène a invitée particulièrement.
Parlez-nous de Véronique Garnier, Hélène Pérez.
Alors Véronique, elle a la même fonction que le père Bustillo, mais dans le diocèse d'Orléans, donc déléguée épiscopale pour la protection des jeunes et des personnes vulnérables. Elle a elle-même une expérience dont peut-être elle va partager, parce que je crois qu'elle témoigne facilement d'avoir vécu un abus par un prêtre. Elle a écrit un livre là-dessus et elle a fait tout un chemin de reconstruction dont elle parle, et grâce à son évêque d'ailleurs. Et donc on pourrait dire elle connaît un peu les choses de l'intérieur. Elle a mis en place avec son évêque dans son diocèse des éléments, notamment par exemple une charte, des points d'engagement concrets avec des, comme vous disiez Monseigneur, des limites, des choses précises sur lesquelles qu'on peut ratifier, qu'il est important de connaître, qu'il est important. Donc voilà, après elle va nous partager son expérience à la fois personnelle et à la fois diocésaine.
Donc là c'est pour le samedi 30 mars, le juste positionnement relationnel, une intervention de Lisa Destrel, qui est vraiment connaisseur de ces questions, et puis Véronique Garnier, protéger les enfants et les jeunes, c'est l'après-midi.
Voilà, et donc en fait c'est la première journée du 12 janvier, elle est plus sur la beauté du corps et de la sexualité, le matin, et puis les déformations possibles après-midi avec une association qui s'occupe d'aider les personnes à sortir de la pornographie, à se questionner déjà sur les enjeux. Et puis l'après-midi, ça sera comment accompagner les jeunes pour sortir de la pornographie.
Est-ce qu'on peut redire à qui s'adressent ces formations du samedi 12 janvier et du samedi 30 mars ?
Oui, alors ça s'adresse particulièrement pour les animateurs de jeunes, les catéchistes, les professeurs, les prêtres et les religieux. Et en fait, toute personne qui travaille avec des enfants ou des jeunes. Voilà, depuis le mois de septembre, on promeut cette formation auprès des animateurs de jeunes. Et c'est vrai que je reçois vraiment un accueil, une écoute grave, une implication de la part de ces personnes. Voilà.
S'agissant des modalités pratiques, on le redira, mais il y a, je pense, sur le site internet du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, tout ce qu'il faut pour s'inscrire. Il faut s'inscrire, hein ?
Oui, il faut s'inscrire.
C'est important.
S'inscrire en ligne, voilà. Donc c'est possible.
Et inscrivez-vous sur le site du diocèse catholique65.fr. Il existe aussi des petits dépliants que nous avons entre les mains, là, aujourd'hui, alors que nous réalisons cette émission, où tout est détaillé s'agissant de ce que représente chaque intervenant et quelles sont les responsabilités de chacun et des thèmes.
On peut retrouver ces dépliants sur le site du diocèse aussi.
Également en téléchargement. Monseigneur Brouvet, c'est un volet fondamental de la formation. Former en particulier ceux qui sont chargés d'accompagner ou de vivre des temps d'abord de foi avec ces jeunes, il faut le redire. Donc ce que vous entendez là, cette mise en place d'une formation, vous l'avez souhaité plus qu'ardemment, vous avez poussé très fort.
Oui, puis je serai là.
Et vous serez là.
Les deux jours, évidemment, parce que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, la formation des animateurs et des éducateurs de jeunes dans le diocèse, d'abord, et puis ensuite sur ces sujets-là en particulier, moi, je veux m'en faire l'apôtre. et puis le participant aussi.
Sur le volet prévention, ce sont toutes ces chartes qui vont être écrites pour que chaque lieu où des jeunes ou des personnes vulnérables sont susceptibles d'être accueillis, on ait une façon de faire qui soit pertinente et respectueuse.
Oui, alors non seulement on va les écrire, donc il y a, avec le père Bustillo, il y a une petite commission qui va écrire. Il faut dire qu'on a déjà l'expérience, parce que ça fait déjà plusieurs années que, par exemple, pour les confesseurs qui viennent, vous savez qu'il y a à peu près 300 prêtres qui viennent au sanctuaire de Lourdes chaque année pour confesser, ça fait plusieurs années que nous avons déjà des processus. Les prêtres qui viennent sont recommandés par leur supérieur, évêque ou bien supérieur religieux. Ils s'engagent dans une charte et puis ils fournissent aussi un extrait de casier judiciaire. Moi-même, d'ailleurs, j'ai fourni mon propre extrait de casier, comme tous les chapelains de Lourdes qui confessent. C'est dire si on prend au sérieux cette question. Mmh. Et donc, ces process et ces chartes, elles vont être rédigées par avec le père François. Et puis, je vais les publier aussi. C'est-à-dire que lorsque l'évêque publie officiellement, c'est dire l'autorité. Hein. Personne ne peut dire « moi, ça ne me concerne pas ». Personne ne peut dire « moi, dans mon mouvement, je ne suis pas concerné, ou je ne veux pas le faire, ou ça ne m'intéresse pas, ou ce n'est pas comme ça qu'on fait ». Ça veut dire que je m'engage pour que tout le monde signe et tout le monde s'engage.
Oui. Frère Bustillo, voilà un grand chantier, même si, comme le disait Mgr Brouvet, déjà de bonnes pratiques sont à l'œuvre, mais il faut vraiment les étendre et qu'elles soient systématisées, ces bonnes pratiques de protection vis-à-vis des personnes fragiles et des mineurs.
Oui, c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'il y ait un travail à des niveaux différents. Donc un travail dans une commission où on discerne, où on prépare et où on propose des chartes. Il est important qu'il y ait un travail aussi avec le corps intermédiaire entre la cellule d'organisation et les enfants. Il y a des formateurs, des éducateurs, catéchistes, responsables, de prêtres. Donc il est important qu'ils puissent avoir un bon contact. Mais je crois que l'argument d'autorité est fondamental. On n'est pas dans la poésie, se dit « il faudrait, peut-être que, voilà, il serait bien ». Mais il y a un argument d'autorité dans lequel l'évêque dit « voilà, chez moi, dans notre diocèse, on fait attention, on agit comme ça. » Et ce domaine est fondamental. Parce que nous avons des valeurs et nous avons un évangile qui est magnifique. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Il est important qu'il n'y ait pas de perversion dans la communication de cette bonne nouvelle. Et qu'il n'y ait pas de comportement pervers. D'où l'importance d'être attentif, vigilant, non pas peureux, mais prudent et vigilant pour que la bonne nouvelle soit annoncée d'une manière juste.
On va faire un petit tour de table pour le mot de la fin, si vous le voulez bien, et puis nous renverrons vers un certain nombre d'outils qui sont déjà à disposition, notamment sur le site internet du diocèse de Tarbes-Lourdes. Hélène Pérez, nous reproduirons ce type d'émission pour tenir informés ceux qui nous écoutent, parce que ce sujet forcément est important pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Mais si vous aviez à dire quelque chose pour terminer cette émission... Un encouragement peut-être à participer
à la formation. C'est tout à fait ça, c'est un encouragement à venir, comme notre évêque nous vient de nous le dire, et il sera là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à venir à cette formation, même j'allais dire si on est simple entre guillemets parents, parce qu'on éduque nos enfants aussi, et on peut être intéressé par ce sujet à creuser.
Ça se passe à la maison diocésaine, 51 rue de Trainès à Tarbes.
Voilà.
Et vous aurez tous les renseignements sur catholique65.fr.
Voilà, tout à fait.
Deux journées, le 12 janvier et le 30 mars. Ce sont des samedis. Sœur Monica.
Moi, je voudrais simplement dire que, aussi en tant que religieuse, je prie aussi pour les victimes. Et voilà, pour les histoires que je lis dans la presse, je pense que c'est important aussi.
Oui, merci pour votre prière. Frère Bustillo.
Je pense que la mission d'un prêtre, d'un croyant, d'un baptisé, c'est de faire le bien et de sortir ce que chacun a de meilleur. Donc il est important que nous puissions encourager tous les comportements sains, positifs et constructifs. Et maintenant, ma responsabilité, c'est de dire, dans certains domaines, dans le contact avec les autres, il faut sauvegarder le respect, la pudeur, et il faut être vigilant. Voilà, vigilant pour respecter et aimer les personnes comme elles sont, dans une saine et sainte distance.
Monseigneur Brouvet, Le mot de la fin est pour vous.
Écoutez, moi, ce qui m'a semblé très important cet été, c'était la lettre du pape François à tout le peuple de Dieu qui disait, mais au fond, toute l'Église, tout le monde, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, est concerné par ces questions. Il a élargi la question de l'abus sexuel aux questions de l'abus de conscience et de l'abus de pouvoir. C'est-à-dire, au fond, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'autorité qui nous est donnée ? Et en particulier de l'autorité éducative. Lorsqu'on est chargé d'éduquer, qu'on soit parent, qu'on soit éducateur, qu'on soit professeur, qu'est-ce qu'on fait de cette autorité ? On peut en abuser. Et là, c'est une question, vous voyez, qui est élargie et qui nous montre comment, en fait, beaucoup de personnes sont concernées. Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais du corps de l'autre ? Et en particulier du corps qu'il remet entre mes mains, dans la confiance. Et là aussi, vous voyez, s'approcher de l'autre physiquement, ça n'est pas rien. Moi, j'avais un slogan quand j'étais éducateur de jeunes, c'est quand tu touches au corps, tu touches au cœur. Quand tu touches au corps, tu touches au cœur. C'est-à-dire, dès que tu touches au corps de la personne, tu touches à sa personne elle-même, à ce qu'elle est, dans sa profondeur. Et ça, on ne peut pas y échapper.
Voilà ce que nous pouvions dire sur ce qui est proposé dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes pour lutter contre la pédophilie et protéger les personnes vulnérables et fragiles. Je vous renvoie vers le site internet du diocèse où vous trouverez le rapport de la Conférence des évêques de France sur la lutte contre la pédophilie, des documents, notamment des documents qui concernent la commission indépendante qui a été mise en œuvre et promulguée au niveau de l'Église de France, de textes importants, fondateurs, notamment je signale l'homélie que vous avez prononcé pour la fête de Notre-Dame des Douleurs, le 15 septembre 2018, Monseigneur Brouvet, qui est une homélie très engagée sur la question. Et vous n'avez pas attendu le 15 septembre 2018 pour vous engager, on l'a bien compris. Merci pour votre participation. Au revoir et à bientôt.
Merci.